Interview. 1. Interview.
Ok, the bird.
L'interview du jour.
Sur RDWA 107.5 FM et sur internet www.rdwa.fr. En compagnie de Jean-Pierre Witt et Philippe Méjean, bonjour.
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 Nous allons parler de la déchetterie. Non, pas de la déchetterie.
Non.
De la zone de tri et de réemploi de Lucandiwa. Enfin, ça y est, les travaux sont terminés. C'est très beau hein, quand on passe à côté, c'est propre.
Oui, oui, donc le chantier est maintenant terminé. Donc les services sont en train d'aménager pour que l'accueil soit le plus parfait possible. Et l'ouverture est prévue pour mardi. Voilà, mardi après-midi.
Ah, donc c'est vraiment bientôt.
Oui.
Alors, qu'est-ce qu'elle a de particulier, de nouveau? On avait publié un plan là, hein. Ça ressemble à ce que vous aviez prévu à l'informatique.
Déjà, la première chose que vous voulez faire, c'est mettre bien sûr les personnes qui passent à porter à cette fameuse aire de tri et de réemploi. Ces personnes-là soient en totale sécurité, qu'elles se trouvent bien dans ce lieu. Parce qu'on part du principe que si on est à l'aise sur un lieu, tout se passe bien et le tri, il faut que ce soit sérieux. Et puis, deuxième chose aussi, c'est apporter un confort à nos équipes, à nos personnels qui sont là tous les jours. Parce que bien sûr, il y a les moments forts où les passages sont là pour que les apporteurs déposent leurs déchets. Et puis, il y a des services qui passent après pour récupérer les bennes. Il y a des rotations de camions, bien sûr, il ne faut pas qu'il y ait de public. C'est en période de fermeture. Voilà, donc maintenant je laisse la parole à Philippe.
Mais ouais. Juste avant, c'était vraiment craignos.
C'était pas craignos, mais bon, oui. Luc n'est pas la pire. Hein. C'est pas la pire. Au niveau risque, tout le monde le sait, c'est dit, quartier Chapia, juillet-août, un passage toutes les 3 minutes. Voilà. La personne qui est là, le référent qui est là pour gérer la circulation, eh ben, chapeau. C'est du boulot, hein. Ça semble simple, mais c'est pas évident. Et surtout, certains moments, il y a des personnes qui s'emportent un petit peu lorsque la barrière est baissée. Mais bon, c'est pour la sécurité de tous. Mmh. Voilà. Si on baisse la barrière, c'est qu'il y a le feu quelque part, c'est qu'il y a trop de monde.
Donc là, c'était surtout réaménager un circuit hein, sur cette...
Un circuit et puis...
Une marche en avant, comme
marche
on dit.
En avant, ouais, voilà, ouais. Marche en avant. Et puis le tri, il y en a de plus en plus. Donc, de plus en plus, on nous dit...
Donc plus de bennes.
Plus de bennes, voilà. Ouais. Voilà. Et là, on pense à tout. On a travaillé sur un lieu qui est un petit peu... qui est restreint. La commune de Luc, ils nous ont donné du terrain pour qu'on puisse avoir un peu plus d'espace. Et comme on dit avec Philippe, bon, on repart pour 20 ans, 20 années. Mais 20 années, 20 ans, dans le service déchets, il va encore évoluer. Parce que bon, tout le monde le sait que le plus bel avenir pour nous, ce serait zéro déchet.
Donc il faut anticiper sur 20 ans en plus. Ça, c'est quand même un truc de dingue, Philippe.
Oui, tous les nouveaux équipements prévoient des quais complémentaires, soit des possibilités d'agrandissement, en tout cas de l'adaptabilité. C'est ce qu'on met dans nos cahiers des charges et qu'on essaye de faire avec le foncier disponible. Donc là, on était sur une zone un petit peu contrainte, hein, malgré l'appui de la commune pour avoir du terrain en plus. Donc on a réutilisé au maximum aussi l'existant. Donc ça fait partie de la bonne gestion... des deniers publics. Je pense que c'est important de remettre ça en contexte. C'est-à-dire que quand on a fait la réforme de la collecte il y a maintenant 5 ans, fin 2014, opérationnelle fin 2015, hein, en fait, on a commencé à collecter en octobre 2015 avec les nouveaux camions, on savait qu'une partie des ordures ménagères allait finir en déchetterie. Et les déchetteries accueillent depuis 2010 plus de 50% de déchets en plus. Donc on a une augmentation des tonnages en déchetterie importante.
Mais comment on l'explique? C'est-à-dire que les gens préfèrent descendre leur poubelle classique, j'allais dire, en même temps qu'ils vont à la déchetterie, puisque...
Non, c'est qu'on demande plus de tri et qu'auparavant, il y a plus d'offres de tri, donc les gens sont respectueux des nouvelles filières qui sont proposées. C'est-à-dire que si on offre le tri du polystyrène en déchetterie, ben, ils ne vont pas le jeter, et c'est très bien, dans les bacs à ordures ménagères. Alors qu'auparavant, on trouvait dans les bacs à ordures ménagères de 600 litres, on pouvait trouver des radiateurs, on pouvait trouver des séchoirs à linge, on pouvait trouver des aspirateurs, on pouvait trouver des lits. Aujourd'hui, ça ne rentre plus dans les conteneurs à tambour. Mmh. Et c'est heureux, et c'est pour ça que ça a été fait comme ça.
Ah oui, donc c'est des ordures ménagères mieux triées.
Ce sont des choses...
Ça, je voulais comprendre, c'est pas le sac noir, quoi.
C'est pas ce qui va normalement dans le sac noir. Donc tout ce qui devait aller en déchetterie, il va désormais à peu près. On a encore quelques incivilités. Mais du coup, ça fait des tonnages supplémentaires. Voilà. Donc si on part de Luc, parce que c'est quand même l'objet du jour, à Luc, on va avoir plusieurs flux de tri nouveaux qui vont être proposés. On pourra déposer à part les portes et fenêtres vitrées, alu, PVC ou bois. On pourra déposer à part le plâtre et les plaques de plâtre. On pourra déposer à part, de manière un peu plus organisée, le polystyrène. Et on pourra aussi déposer de manière triée le bois palette, cagette et bûche, c'est-à-dire un bois qui est garanti non traité, et tout le reste du bois, parce que c'est des traitements différents. Le bois traité ou dont on ne sait pas s'il a été traité ou pas, lui va dans des cimenteries, alors que le bois non traité, et dont on est sûr qu'il n'a pas été traité, lui peut être réemployé localement, ce qu'on va essayer de faire en le remettant via la ressourcerie à disposition d'usagers. Donc on est en train de s'organiser, ça va prendre un peu de temps. Et surtout, si on l'évacue, on peut le mettre dans des chaufferies classiques. Voilà. On fera de même avec les végétaux, on va faire un essai. Végétaux branches d'un côté, végétaux... type feuilles et tonte de l'autre côté, parce que ça, c'est prêt à être composté. Donc, on aura deux bennes distinctes pour les végétaux. Voilà.
Et après, Luc Andiwa avait aussi une particularité, c'est qu'il y avait énormément de peinture qui arrivait dans cette déchetterie.
C'est géré, il y a des filières, on récupère les pots qui sont plus ou moins vides, plus ou moins la peinture collée à l'intérieur, plus ou moins sec, et on a des filières pour évacuer tout ça. Et c'est pour ça que...
Donc ça se réemploie, ça se recycle aussi la peinture.
Ça, c'est pas sûr. Ça,
c'est, non, les déchets dangereux...
Au moins les pots, alors.
Alors, les déchets dangereux que le gardien trie, c'est-à-dire qu'on demande aux gens de les pré-déposer dans une caisse et le gardien assure le tri ensuite, sont des déchets qui font l'objet de traitements spécifiques. Alors, c'est souvent du traitement par brûlage, mais qui permet quand même de récupérer les métaux au final, quand il y en a. Mais tous les déchets dangereux sont à une incinération, mais avec des filtres adaptés dans des sites Céveso. Quoi. Voilà, mais au moins, ils ne finissent pas dans la nature ou dans des trous, hein, puisque les encombrants... Alors ça, c'est important de souligner aussi. Sur une déchetterie, seuls les encombrants vont finir enfouis. Toutes les autres bennes passent dans des filières de retraitement et sont recyclées. Donc, à l'exception peut-être des déchets dangereux dont on vient de parler, qui, eux, sont... en partie récupérés et en partie incinérés, mais tous les autres font l'objet d'une valorisation. Mmh. Donc le tri, il a une efficacité, c'est-à-dire qu'il permet derrière le réemploi de la matière qui a été triée.
Elle est assez dingue, cette benne d'encombrant, quand même.
Ah, on a encore des choses qu'on aimerait trier dedans. Hein. On n'est pas au bout. Hein. Quand on invite d'ailleurs les gens dans les gros volumes d'encombrants, on a quoi ? On a les isolants et le plastique, encore. Donc dans les isolants, on a sorti le polystyrène. Dans les autres isolants, s'ils sont encore utilisables, on vous invite vraiment à les amener à la matériothèque Le Recycle Ouadi, parce que certains les réemploieront et ça n'aura pas à être transporté à l'extérieur du territoire.
Est-ce que d'ailleurs, ça peut être quelque chose qui peut être invité par le gardien, même au moment où on arrive ? Ah ben non,
oui.
Écoutez, non, franchement, c'est dommage de le jeter.
Alors, plus que ça, il va avoir droit de faire cette invitation et il pourra même récupérer, pour le compte des deux associations avec qui nous conduisons le projet de ressourcerie, que sont Air Trésor et la matériothèque Le Recyclou, il y aura un local destiné aux objets recueillis pour ces associations. Alors c'est un acte volontaire, j'insiste, parce que sur une déchetterie, anciennement une déchetterie, aujourd'hui une aire de tri et de réemploi, sur une aire de tri et de réemploi, tout ce qu'on met dans les bennes, c'est un abandon d'objets. Et donc ça change de statut. Nous, on est obligés en tant que collectivité d'interdire la récupération et de garantir que ça part dans des filières où les objets vont être traités de manière conforme aux réglementations environnementales. Et on ne peut pas obliger un usager à laisser de côté un objet pour réemploi. C'est lui qui fait un acte de don et on doit avoir en face de ce don une personne connue. Donc là, c'est une personne juridique Ce sont les deux associations que j'ai nommées tout à l'heure, avec qui nous avons convention, et qui pourront récupérer ces objets parce que c'est à elles qu'ils vont être donnés. Et ça sera affiché comme tel sur la porte du local ressourcerie. Mmh. Donc, après, si des gens veulent donner à d'autres, c'est possible. Ça s'appelle en ligne Freecycle, ça s'appelle les bourses d'échange, ça s'appelle les zones de gratuité, ça s'appelle la famille. Ça peut être vendu localement sur des vide-greniers. Donc, toutes les formes qui redonnent vie à des objets plutôt que de les laisser mourir dans une benne, dans une aire de tri, sont utiles. Voilà. Mais nous, on ne pourra gérer qu'une seule forme, le don aux associations de la ressourcerie.
Cette question juridique sur l'abandon d'objets et donc votre obligation à ne pas pouvoir le ressortir de la benne, c'est un peu particulier quand même, justement. Ça va presque à l'inverse de la question du réemploi.
Mais oui, il y a surtout un côté de sécurité parce que dans nos aires de tri et de réemploi, il n'y en a qu'un qui est habilité à pouvoir s'occuper de la benne, c'est le responsable du site. Voilà. Et si malheureusement quelqu'un est dans la benne, aurait un accident... Là, nous sommes entièrement responsables. Voilà. Je pense que c'est déjà ça, la première chose. Après, il y a le côté juridique. Hein. Comme Philippe l'a dit, tout ce qui rentre après le portail nous appartient. C'est un déchet. Voilà.
Et c'est bien dommage que ce soit un déchet au moment même où on va appeler ça une ère de tri et de réemploi. Mmh. Ça a du sens, du coup, d'utiliser ce vocabulaire-là. C'est bien dans le but de faire comprendre aux gens que... Un déchet, c'est pas un truc justement qu'on abandonne dans un coin et qu'on oublie.
Donc ça fait partie d'un débat que la commission déchets, qui gère aussi le service, hein, aussi une commission, qui propose aux élus de la communauté de communes. Mmh. Et la commission déchets apporte beaucoup, beaucoup d'idées là-dessus. Et c'est vrai que ça a été un débat lorsque c'était inscrit au niveau de notre réunion d'il y a une paire de mois. Et qu'est-ce qui est vraiment un déchet? Et on a eu un débat aussi sur le fameux bois. Parce que dans le Diwa, on s'aperçoit que l'hiver, nos déchetteries, nos aires de tri et de réemploi, c'est une ressource que certaines personnes puissent aller chercher des cagettes, chercher un peu pour brûler, pour allumer. Voilà. Et ça, ça va être compliqué à gérer à l'avenir. Parce que dans les bennes, justement, la responsabilité est là.
On a une injonction de changer ces pratiques-là de la part des services instructeurs de l'État, puisque juridiquement, on est sur des installations classées pour la protection de l'environnement et que ce qui arrive dessus, ce sont des déchets. Alors la loi autorise à ce que dans ces installations, sur certains flux, dans la limite de 10% du total à peu près, on puisse organiser le réemploi, mais c'est en direction d'une personne juridique connue. Et nous, on a organisé ça avec les associations qui portent le projet de ressourcerie.
Donc mais ça, c'est pourquoi important. C'est ça la question. Est-ce qu'il y a beaucoup, en fait, de sortants, j'allais dire, d'une déchetterie, hein, en temps normal, comme ça? Est-ce qu'une déchetterie, c'est vraiment un espace qui se fait piller? Et donc, à ce moment-là, on pourrait dire, c'est pas si mal.
Le pillage, on en a du pillage, hein, mais des fois, c'est pas pour la bonne cause. Et nous, la commission, justement, elle partait du principe que prendre un petit peu de bois, c'est pour la bonne cause. Après, il y a d'autres formes de pillage. Et
Par exemple,
et ben, régulièrement, nous sommes confrontés à des personnes qui viennent aux heures de fermeture et qui fracturent le portail. Ils fracturent là où on met les trois œufs. Alors, ils font le tri, ils balancent sur l'air là où se trouve le rangement. Et ils prennent ce qui intéresse, les télés, les ordis. Et puis, quand ils partent, ils laissent le bazar, quoi. Mmh. Alors, quand le préposé arrive le matin, la première des choses à faire, c'est tout rentrer, sortir, prendre le balai, la pelle, et ramasser les bouts de verre pour que la plateforme soit en sécurité. Mmh. Voilà, et ça, c'est pas du civisme. Hein. Mais je vous rassure, ce n'est pas des gens de notre territoire.
Oui, non, mais voilà, alors d'accord. Voilà. Donc il y a effectivement des voleurs, vraiment des pilleurs de déchetterie. Et ce qui est différent, parce qu'on l'entend bien dans le territoire, d'un certain nombre de gens qui trouvaient ça agréable de pouvoir quand même venir justement récupérer ça et là une palette ou quelque chose qui était intéressant, une chaise qui traînait là, qui marche encore. Et c'est un peu ça qui se fait front en fait dans cette situation.
C'est un débat. Enfin, moi, j'étais pas dans la tête du législateur, mais de ce que je comprends, c'est une question de responsabilité sur la façon dont on déconstruit ensuite ou qu'on retraite ces objets. C'est-à-dire que si effectivement quelqu'un récupère, même à titre individuel, une télé, récupère des composants qui l'intéressent et remet le reste dans le bac ordures ménagères, par exemple, l'acte de tri qui a été fait d'amener dans une installation classée qui est censée ensuite faire en sorte que cette télé file dans une filière normalement d'aplomb. Alors oui, il y a des émissions qui nous ont montré que pour certaines filières, ça partait dans des pays où les normes ne sont pas les mêmes, etc. Aujourd'hui, on est quand même de moins en moins dans ça, objectivement. Je ne dis pas qu'il ne reste pas des recoins derrière les rideaux où il y a encore de la poussière et des déchets qui ne sortent pas dans des filières agréées selon les règles de traitement européens. Je ne dis pas que toutes les entreprises de retraitement suivent exactement les préconisations qui leur sont données, parce qu'on trouvera forcément à un moment ou à un autre des contre-exemples. Mais le cadre réglementaire, il est fait pour ça, c'est-à-dire pour qu'un déchet, au final, il soit retraité dans le respect des règles environnementales de l'Union européenne. Et c'est ça la règle. Voilà. Après, ça n'empêche pas de s'organiser. Et là, il faut aussi redonner la responsabilité des choses à l'usager si on a envie de donner un objet qui est encore en bon état. Et sur une déchetterie, quand on avait fait des tests il y a 3 ans là, pour voir si ça valait le coup d'aller vers une ressourcerie, a dit, tous les jours, vous sortez de quoi équiper au moins une maison complète avec du matériel encore en fonctionnement. En termes de... Vous allez trouver vos rideaux, vous allez trouver votre télé, alors une vieille, mais qui marche encore. Vous allez trouver peut-être un bout de machine à laver. Donc, avec des fois un tout petit brin de réparation, vous pouvez équiper un logement complet, chaque jour. Donc, c'est effectivement une aberration. Les agents du service, même si ce n'est pas autorisé, des fois, ils laissent des trucs de côté parce que ça fait trop mal au cœur. Donc, nous, ce qu'on veut faire, ce n'est pas empêcher ce mouvement de récupération. Au contraire, c'est de lui donner un cadre. Financement de la ressourcerie pour qu'ils aient des locaux neufs à échéance de 2-3 ans. Et il faut un travail extraordinaire pour la récupération. Mise à disposition de zones de détournement dans l'ensemble des aires de tri et de réemploi pour qu'ils aient une partie du flux qui arrive en déchetterie. Et les gens, parce qu'ils sont venus là par praticité, ils peuvent déposer. Et ils n'ont pas fait le crochet par trésor, ils n'ont pas fait le crochet par la matériothèque, mais ils peuvent déposer. Donc ça... donne une deuxième chance de donner.
Voilà, et ça, c'est un nouveau service.
Et c'est un nouveau service.
Qui débarque à Luc, en
voilà,
plus.
Donc voilà, plutôt que de voir que c'est compliqué encore le statut du déchet et que tout le monde aimerait récupérer dans l'ébène, il faut voir quand même qu'il y a ce nouveau service-là et que chacun peut aussi utiliser les autres services existants sur le territoire. Vous pouvez faire des brocantes, vous pouvez donner dans les aires de gratuité, vous pouvez donner directement aux associations. Il y a les associations qui récupèrent du textile aussi sur la Croix-Rouge de Secours Populaire. Et voilà, il y en a qui organisent des échanges de fringues, des bourses aux jouets, etc. Donc allez-y, enfin, je veux dire, c'est quelque chose qui peut continuer à servir. Effectivement, il faut tout faire pour qu'ils servent encore. Après, il faut se rendre compte qu'il y a un certain nombre d'objets qui, même si on les met sur une zone de gratuité, ne sont pas réutilisés. Ils sont à reprendre. Et pour terminer sur ce sujet, on nous dit toujours « Ouais, mais pourquoi on ne peut pas laisser des choses devant les conteneurs ordures ménagères un peu partout dans la ville ?» Parce que c'est un abandon d'objets
ailleurs,
sur la voie publique.
Village,
ou ailleurs, ou en village. Oui. Alors, si c'est chez vous et que vous organisez un vide-grenier permanent, c'est sous votre responsabilité, il n'y a pas de problème. Si c'est déposé sur la voie publique, c'est un abandon d'objets sur la voie publique. Ce n'est pas légal déjà, donc c'est verbalisable si jamais vous faites attraper et que l'élu veut bien verbaliser ou la police municipale, donc c'est verbalisable. Et puis surtout, ce n'est pas efficace. Pourquoi ? Parce que les équipes de nettoyage de la ville de Die ou les élus dans les autres communes ou l'employé communal quand il existe, quand ils voient des objets au pied d'un conteneur, a fortiori quand il y a eu un brin de pluie ou qu'il va y en avoir un, ils font quoi ? Comme nos agents, ils remettent tout ce qui peut être remis dans les conteneurs est remis dans les conteneurs. Et au lieu d'aller en ressourcerie, au lieu d'être réemployé, ce qui était des fois la bonne intention des gens qui déposent devant le conteneur, c'est l'inverse qui se passe. Ça finit dans une poubelle, même pas triée. Donc ce n'est pas une bonne pratique. On peut organiser ça sous d'autres formes, des boîtes à dons. On va essayer de le faire en même temps qu'on développe le compostage collectif. Mais là, il nous faut des appuis de citoyens parce qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit responsable de... Ce qui n'est pas pris, je l'amène en déchetterie ou je l'amène en ressourcerie. Mais plutôt en déchetterie. Si ça n'a pas été pris gratuitement, il ne va pas être vendu. Donc je l'amène plutôt en déchetterie et je le trie. Voilà. Mais il faut que ce soit géré. Ça demande une gestion. On ne peut pas laisser des objets abandonnés, même avec la meilleure intention. La plupart du temps, c'est un acte où on va à l'envers de l'intention qu'on avait.
L'aire de tri et de réemploi de Luc Andioua va donc ouvrir mardi. Alors, il y avait un trou béant sur le côté. J'imagine qu'il n'y est plus. Donc, elle est bien fermée. Quelles sont ses heures d'ouverture ? Est-ce que l'amplitude est plus grande ?
Tout revient comme avant. C'est-à-dire que c'est donc les mardis, les jeudis et les samedis, de 14h à 18h jusqu'à la fin des heures d'été. Et ensuite, de 14h à 17h. Donc, comme d'habitude, de ce fait... l'aire de réemploi et de tri de Minglon va reprendre ses horaires habituels. Du coup, elle sera ouverte les lundis, mercredis et vendredis de 14h à 18h et le samedi matin de 9h à 12h, voilà, avec passage aux horaires divers, c'est-à-dire 14h-17h à partir du 26 octobre de mémoire.
Oui, donc puisqu'on est dans les horaires d'ouverture, et je crois qu'on peut quand même faire un peu nos excuses aux personnes qui sont habituées à venir à Luc-en-Diois, sur l'ancien canton de Luc-en-Diois, les apporteurs, parce que ça a été un petit peu un moment fermé, et il n'y a rien qui se passait. Donc on avait un petit problème administratif qui a mis une paire de mois à se régler. Voilà, donc c'était un peu le questionnement que nous avions. Ouais, mais vous avez tout fermé, mais rien ne se passe. Voilà, ben, ça va commencer à bouger et ça a été un petit peu plus long que prévu. Et surtout sur le Haut-Diois, des personnes, entre guillemets, qui ont stocké en dessus luxe, qui ont stocké parce qu'aller sur Minglon, ça faisait un petit peu loin. Mmh. Voilà. Donc, à ceux qui nous écoutent, ben, écoutez, on s'excuse encore une fois, mais on a fait ce qu'on a pu. Voilà. Et puis, à Minglon, donc, ça nous a amené beaucoup d'activités, où nos camions faisaient des rotations, bien sûr, comme je disais tout à l'heure, hors horaire d'ouverture au public. Et bon, on peut remercier tout le monde parce que ça a bien marché, on n'a pas eu de soucis.
Celle de Minglon qui d'ailleurs finira par être refaite elle aussi, non ?
Pas tout de suite, parce que quand même, bon, on n'a pas abordé le sujet, mais l'argent, quoi. C'est des budgets. Ouais. C'est des budgets. Donc là, on est à fond sur Luc-en-Diois.
J'ai vu que la Motte était la prochaine.
Tout
quand
à
même.
Fait. La ouais. Motte, le chantier a débuté aussi. Ça va se terminer normalement en début d'année prochaine aussi pour une ouverture. Donc, c'est la déchetterie de la Motte Chalancon qui est indispensable pour les Motois. Et ben, cette déchetterie-là, elle est certes plus petite que Luc, mais il y avait besoin aussi de faire des aménagements, hein, pour revenir toujours au même sujet, plus de tri. Et puis, bien sûr, ce qui nous occupe, c'est la déchetterie de Die. Donc, il y a une maîtrise d'œuvre qui a été retenue. Ils sont en train de travailler sur la table à dessin avec nos services. Hein. C'est un lien toujours, parce que c'est quand même assez spécifique. Comme je leur dis toujours, moi, en premier, que les camions remorques tournent, hein, qui est le sens de rotation, parce que c'est ça, à mon avis, c'est ça déjà le principal. Bon, ça fait sourire Philippe chaque fois, il y pense, mais c'est important que notre matériel soit déjà bien en fonctionnement à l'intérieur et à l'extérieur. Ouais.
Ça, c'est intéressant d'ailleurs. Est-ce que vos agents même, hein, les agents qui sont là, les gardiens de ces aires de tri et de réemploi, participent au plan des nouvelles déchetteries ?
Tout à fait.
C'est une belle valorisation et de monter en compétences aussi, ça.
Oui, tout à fait. Donc, comme je disais tout à l'heure, la commission déchets travaille beaucoup. Fait des propositions, donne des lignes de conduite. Après, l'exécutif valide ou valide pas. En général, il valide. Et après, il y a le conseil communautaire. Et puis, il y a nos agents du service déchets qui sont dans la boucle aussi. Et là, on a une très, très bonne équipe qui est motivée. Moi, je passais dans le cadre de mon travail. Il y a deux jours, je montais sur Luc-en-Diois. Je me suis arrêté. On a fait un petit point. On a discuté. Et je les ai trouvés épanouis. Un gardien de déchetterie d'il y a pas tellement longtemps, 5 ans, c'était pas une personne qui avait les connaissances qu'un gardien de déchetterie a aujourd'hui. Mmh. Moi, comme je dis souvent, un gardien de déchetterie, c'est un nouveau métier. C'est une compétence. Hein, ils sont formés par rapport aux gestes de tri. C'est comme notre réforme, donc elle a aussi mis en valeur nos chauffeurs. Je le répète aussi. Hein.
Ben oui.
Voilà, chauffeur, mais Reaper, c'est pas un métier. Donc, on amène quand même un changement dans notre service. Et pour le moment, comme je dis chaque fois à Philippe, pour le moment, on n'a pas fait de bêtises. Bon.
Alors, sur les gardiens, parce que c'est le personnage central de l'ère de tri et de réemploi. Donc, c'est important de rappeler son rôle. Donc, effectivement, en amont, il est associé à la conception de l'équipement, parce qu'on ne peut pas se priver de son expertise. Ensuite, quand c'est ouvert, c'est lui qui fait l'interface entre le nouvel équipement, qui va forcément amener des nouvelles habitudes et, pour certains, des contraintes, et des usagers qui avaient des anciennes habitudes et qui n'ont pas forcément envie d'avoir des nouvelles contraintes ou qui ont besoin d'avoir des nouvelles explications sur qu'est-ce que je fais de ce déchet qui auparavant a été mis dans la benne tout venant et qu'aujourd'hui, on me demande de trier. Alors, ça m'embête. Donc,
mais d'ailleurs, ils se font engueuler. Je veux dire, c'est un mauvais moment. C'est...
Oui, il y a des moments pas très agréables dans la vie du gardien. Ouais. Donc, moi, j'insiste et je demande beaucoup de respect parce qu'en en fait, ils font le métier de la façon qu'on leur demande de le faire. Donc, il y a une vraie attention à porter au respect du gardien. Il n'est pas là pour embêter les gens. Donc, je vais rappeler son rôle. Il est là avant tout pour garantir la sécurité sur le site. Donc, la première chose qu'on lui demande, c'est de ne pas laisser circuler et stationner les gens n'importe où et de faire attention que les circulations véhicules et piétons soient bien respectées. Donc, petit à petit, vous verrez les marquages. On va faire quelques semaines sans marquage pour voir un peu comment se font les gens intuitivement, regarder comment on place définitivement nos équipements sur le haut du quai. Et ensuite, on va faire des marquages qui sépareront circulation piétonne, circulation des véhicules. Donc, un, assurer la sécurité, à la fois sur la circulation et aussi sur la manipulation d'objets dangereux quand il y en a dans les véhicules. Deux, orienter sur le tri. Et donc, normalement, vous n'avez pas à jeter quand vous arrivez sur l'aire de tri sans avoir pris l'avis du gardien sur est-ce que c'est bien dans la bonne benne.
D'ailleurs, en général, il se manifeste.
Hein. Il se manifeste, ouais. Il vous voit aller sur la mauvaise benne. Et ouais. Voilà, c'est son travail, donc d'aller voir les gens. Et trois, s'il a le temps et si ça ne met pas sa santé en péril, il a pour consigne de donner un coup de main aux personnes qui ont un objet un peu difficile à manipuler. Mais on se retrouve trop souvent devant des situations où on a chargé un poêle à trois dans une remorque et où on revient seul et on demande au gardien de nous aider.
N'importe quoi.
Mais voilà, mais moi, un gardien sans lombaire, c'est plus un gardien. C'est quelqu'un qui est en arrêt maladie. Et du coup, ça ne marche pas pour le service et surtout, ça ne marche pas pour sa santé. Donc, voilà, il y a une demande de respect pour la bonne santé psychologique des gardiens et il y a une demande également d'attention à la bonne santé physique des gardiens. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas aider tout le monde, tout le temps. Ils ont d'abord, un, la sécurité, deux, l'orientation et la garantie que c'est bien trié, et trois,
éventuellement,
s'il y a le temps, s'il n'y a pas une autre personne qui arrive en même temps et si ça ne met pas leur santé en péril, ils ont très souvent, même spontanément, ils vont vous proposer de vous aider pour décharger un truc qui a l'air un peu encombrant ou si vous en avez beaucoup. Pour faciliter ce travail de gardien et pour limiter votre temps de passage sur l'aire de tri, nous vous invitons à trier à la maison. C'est-à-dire qu'un chargement qui a été bien conçu avec des petits cartons adaptés pour chaque flux, en arrivant, en 30 secondes d'échange, le gardien va vous dire où ça va et il n'aura pas à revenir derrière vous ou vous n'aurez pas à vous embêter d'aller dans une benne puis une autre, puis faire des trajets dans tous les sens. Voilà. Donc, c'est à la fois pour la sécurité, à la fois pour la vitesse d'exécution, à la fois pour le confort de l'échange avec le gardien, vous avez intérêt à trier avant de venir. Voilà.
Les autres nouveautés, Luc ?
Il y a le bâtiment. Donc, dans le bâtiment, et ce n'est pas rien pour le gardien, il y aura des sanitaires, parce que c'était une déchetterie.
Ce n'était pas le cas avant.
Alors,
on va dire si.
C'est-à-dire que faut savoir que toutes les déchetteries ne sont pas à Minglon, par exemple, vous n'avez pas de sanitaire.
Ouais.
Et vous n'avez pas d'électricité. Il y a l'eau qui arrive, mais il n'y a pas de sanitaire, pas d'électricité.
Et c'est en Algeco, d'ailleurs, c'est un.
Non, c'est une cabane bois, etc. Voilà. À la mode Chalancon, il n'y avait pas l'eau. Voilà. Donc, on est sur quand même la reprise des bases. Ouais, c'est quand même mettre le gardien dans des conditions normales de travail, d'hygiène et de sécurité. Il aura un casier pour changer, une douche pour se laver s'il y en a besoin. La douche servira de secours également pour les usagers en cas de problème avec un produit dangereux, etc. Donc on a des équipements d'hygiène et de sécurité normaux. On a un bâtiment qui permettra également la protection des déchets dangereux et des déchets soumis au vol les plus fréquents. Donc les déchets électroniques seront dans le bâtiment. Et on a la nouveauté ressourcerie dont on a parlé tout à l'heure. Et sur la fin du bâtiment, vous avez un abri qui abritera la tractopelle de la collectivité, qui permettra de tasser les bennes. Donc ça, c'est aussi une nouveauté pour que sur le trajet Luc dit, on ait aussi une économie en termes de nombre de transports effectués, comme on l'a désormais sur tous les transports effectués vers la vallée du Rhône. On a le traitement des eaux. Avant, les eaux partaient sur les terrains voisins. Donc aujourd'hui, elles vont passer par un décanteur, par un bassin d'infiltration et elles fileront ensuite vers le milieu naturel sans les huiles et les matières organiques qu'on aura récupérées. On aura la défense incendie qui n'existait pas, donc qui est originale puisqu'on a eu l'autorisation de faire un ponton au-dessus de la dernière lagune de la station de lagunage de Lucorniois, où les pompiers pourront arrêter un camion à proximité, mettre un point de puisage et, par un portillon ad hoc, faire la défense incendie de la déchetterie, si nécessaire.
En pompant directement dans la lagune,
donc c'est ce qui est une économie de moyens et une utilisation astucieuse.
Le pompage se fait au dernier bac, hein, celui qui est le plus
filtré. On pompe pas directement à l'arrivée de la lagune, ne vous inquiétez pas. Voilà.
De toute façon, vous retraiterez vos eaux après. Donc.
En cas d'incendie, l'eau de l'extinction est retenue par un bassin spécifique.
Ah, on saura
tout. Et vous aurez, je me mets à la place de l'usager, il va me dire, oh là, mais avant c'était facile pour mes végétaux, c'était facile pour mon bois, je prenais ma remorque, je reculais, je vidais, ouais, je m'en allais.
Dans
un terrain vague, bon, des fois je crevais, certes, mais...
c'est vrai.
Voilà. Mais là, on va me demander de jeter tout ça par-dessus un parapet ou une rambarde. Oui. Oui, pourquoi ? Parce que ça évite de la reprise, parce qu'on va pouvoir livrer directement ces bennes avec le tri dont je parlais tout à l'heure, bois non traité et végétaux branches à broyer et végétaux déjà broyés quelque part. On va pouvoir aller beaucoup plus vite sur les exutoires et avoir une meilleure qualité de tri et une meilleure surveillance du gardien, puisque malheureusement, dans les végétaux, certains oubliaient que quand ils avaient chargé la remorque, il y avait un sac poubelle au fond ou encore le soubassement du poteau métallique. Donc on avait poteau plus béton, et ça, dans un broyeur, c'est pas très bon. Donc la qualité du tri est mise au centre de l'équipement. Ça, tout est à portée d'œil du gardien. Seuls les pneus devraient être en bas de quai. Tout le reste sera à quelques mètres du gardien qui pourra rapidement dire attention, ça, il faut faire plutôt comme ci ou comme ça. Voilà. Donc on a tout recentré et on a sur le parapet, si vous déposez 2-3 éléments que vous avez dans votre coffre, et le gardien pourra voir avant qu'ils finissent dans la benne, dire ah ben non, ce qui est sur ce coin de parapet, décale-le, mets-le dans la benne voisine, ça ne va pas dans celle-là. Voilà. Donc tout est fait pour améliorer le geste de tri et garantir ensuite un tassement et une meilleure valorisation.
Ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'au niveau des déchets verts, on essaye de trouver des agriculteurs qui accepteraient ce produit, qui mélangent à leur compost, et apparemment ça fait du très très bon liant pour améliorer la qualité de leur récolte et de la terre des champs. Voilà, donc il y en a deux qui sont pressentis déjà, un sur Mont-Laurent-d'Ivoire et un sur Okubo. Mais ce n'est pas évident de dire aux professionnels allez baigner directement là-bas sur l'aire de tri. Ils n'ont pas encore le réflexe et ça, c'est une piste qu'il va falloir encore un peu plus soigner parce que tous les déchets verts nous coûtent beaucoup, beaucoup d'argent parce que derrière, il faut les broyer. Voilà, donc là, on va essayer de séparer déjà la tonte, mais ce n'est pas sûr, la tonte avec les broyats, les déchets de branches, quoi. Mais la tonte, le souci qu'il y a, c'est qu'après, la tonte, si elle est un peu humide, ça s'agglomère et ça risque de ne pas faire un bon broyat. Voilà. Et ce qu'on peut rajouter aussi sur notre investissement à Lucorniois, c'est que ce bâtiment a un toit. Et donc, on a fait un appel d'offres pour l'équiper en panneaux photovoltaïques.
Ah, voilà. Vous saviez que j'avais la question là. C'est un Lucois qui m'a demandé ça. Ils ont un super toit, une des meilleures. Donc c'était ma question. Voilà. C'est très bien. Donc vous alliez le faire.
Il y a une toiture et donc la société DeWatt, qui a été la seule société qui a répondu à notre petit appel d'offres.
Oui, de la SCOP, c'est même une SCOP. Voilà.
Une SIC.
Une SIC. Voilà.
Ouais, donc ils ont déjà tiré les premiers câbles sur ce toit dans la semaine. Là. Voilà.
Donc le toit photovoltaïque va être installé dans...
Ouais, combien de mètres carrés là ? C'est un gros toit. Hein.
La totalité du toit, oui.
Ouais, mais c'est, je
200 mètres carrés à peu
200,
près.
200, ouais, voilà, c'est ça.
Sur la Motte Chalancon, on a un projet, mais là c'est un peu plus compliqué. Ça ne serait pas la toiture, ça serait un parc à côté de la déchetterie. Un parc, c'est un terrain qui est en pente et qui a toutes les capacités de recevoir ces équipements. Voilà. Mais là, on est en discussion avec le parc des Baronnies, qui, dans sa charte, il faut qu'il retravaille là-dessus. Voilà. Ça semble intéressant, mais ce n'est pas évident. Aujourd'hui, ce n'est pas un oui catégorique.
C'est surtout notre plan local d'urbanisme qui est à modifier, parce qu'aujourd'hui, il ne le permet pas. Donc, il faudra attendre 3-4 ans pour que ce projet sorte. En tout cas, les réservations sont faites. Et là aussi, la préétude a été réalisée. Donc, sur chaque aire de tri et de réemploi, on a systématiquement l'étude et la mise en place, si c'est favorable, d'unités de production d'énergie renouvelable.
Voilà. À quand la méthanisation ? À 10 si... peut-être
Méthanisation peut-être.
Pour parler de tous ces déchets verts, là, les tontes.
Hein, alors, c'est très largement insuffisant. On a une croyance, mais en fait, on en a beaucoup et c'est cher. Il faut donner quelques chiffres. Aujourd'hui, ça nous coûte 25 euros la tonne de traiter des végétaux dans des conditions qui ne sont pas réglementaires. Si on se met dans des conditions réglementaires, ça va nous coûter entre 50 et 80 euros la tonne, livrée, broyée, prêt à composter chez les agriculteurs. Eux trouvent du compost acheté venant des fois de très loin, de Savoie, voire de l'étranger, aux alentours de 25 à 30 euros la tonne. C'est-à-dire un produit fini, prêt à épandre, qui n'ont pas à retourner, à mélanger à autre chose, etc. Donc c'est une aberration de traiter des végétaux amenés en déchetterie pour faire une base de compost à un tarif égal aujourd'hui, mais demain deux ou trois fois supérieur au tarif du compost livré. Ça ne peut pas marcher économiquement. Donc jeter des végétaux, ça n'a pas de sens. Sauf à augmenter le coût de traitement des déchets sur le territoire et donc la taxe de chacun. Donc on invite dès maintenant toutes les personnes du territoire, on a demandé aux professionnels, et c'est inscrit dans le règlement qui a été voté en septembre, de ne plus apporter de végétaux en déchetterie.
Oui, c'est ça, j'allais dire, il ne faut plus les récupérer.
On les accompagne et on a deux ans pour qu'ils ne viennent plus du tout.
Okay.
Donc ça, c'est important. Et ils sont en train de s'organiser. Il y a eu beaucoup d'efforts de fait ces dernières années par les professionnels qui broient très souvent chez l'usager, qui proposent de laisser ce broyat ou qu'ils le valorisent par eux-mêmes sur d'autres parcelles qu'ils ont en gestion ou qu'ils donnent aux agriculteurs. Donc ça, déjà, c'est un grand pas de fait. Il faut qu'on le termine avec les professionnels. Et ensuite, il faudra qu'on fasse le pas avec les particuliers parce que ça n'a pas de sens d'apporter ces végétaux en déchetterie.
Déjà, en fait, d'enlever le terrain vague, ça va limiter cette dépose un peu. Donc, ce sera forcément dans des bennes. Et puis, petit à petit, la benne va disparaître. Voilà. Disons-le maintenant,
C'est une hypothèse qui est à l'étude. On ne peut pas le faire brutalement parce que des gens ont pris des habitudes. Par contre, c'est une hypothèse à l'étude. Et pour ça, il faut qu'on mette en place des solutions avant. C'est ce qu'on nous a demandé d'étudier au dernier exécutif. Donc, on étudie ces solutions. On a des prestations de broyage qui sont disponibles sur le territoire pour les petites quantités. Vous pouvez louer un broyeur et l'utiliser chez vous quand vous avez fait un élagage un peu massif. Voilà, et vous passez une demi-journée de broyage. Ça vous évite des trajets vers l'aire de tri et de réemploi. Et vous gardez le bénéfice de votre coupe. C'est-à-dire que vous avez quelque chose qui, derrière, va se décomposer et réenrichir votre terre de jardin. Voilà. Laisser sa tonte chez soi, c'est un principe de base que toutes les collectivités petit à petit mettent en place en France. Les particuliers pourraient le faire aussi. Garder les feuilles et les composter dans un coin de jardin, ça ne prend pas beaucoup de place. Donc, si on a des feuilles et de la tonte et des branches, c'est qu'on a quelque part la place pour les gérer et l'intérêt de les conserver pour que nos végétaux de demain profitent de la richesse des végétaux d'hier et qu'on ne la mette pas dans un champ. C'est ça qu'il faut dire. Donc, c'est du bon sens. Avant, ce n'était pas un déchet, les végétaux. On n'en avait jamais. Alors, ils étaient pour partie brûlés, ce qui est un non-sens aussi. Donc, c'est très bien qu'on interdise de brûler. Et c'est très bien si demain, on arrive à réutiliser cette matière végétale et tout ce carbone pour qu'il retourne au sol et qu'il ne crée pas de pollution et de surcoûts inutiles pour la gestion d'un service déchets. Voilà. On a beaucoup plus à se préoccuper, effectivement, de ce qu'on autorise aujourd'hui à la mise en marché. Il y a des plastiques qui se baladent, etc. Ben, c'est bien qu'ils soient récupérés sur une aire de tri. Voilà. Mais des végétaux, à mon avis, on peut les gérer autrement.
Ça fait le lien comme ça rapidement et pour terminer cet entretien en votre compagnie sur les composteurs collectifs. Je sais dans mon village, la proposition a été faite par exemple, donc l'animatrice dont j'ai oublié le nom là.
Isabelle.
Isabelle, voilà, qui était venue nous voir, est à l'œuvre.
Oui, elle est à l'œuvre et elle fait encore quelques formations pour apprendre encore un peu plus, mais c'est une personne en qui on a donné beaucoup d'espoir. Voilà. Il va falloir que le résultat soit là, parce que ça a été, pour la communauté de communes, ça a été la création d'un poste. Donc un poste chargé, c'est pas simple à englober dans le service. Et donc l'exécutif a validé, le conseil communautaire aussi, le poste d'Isabelle. Et c'est une personne qui, on le pense, va nous apporter beaucoup sur le territoire et nous apprendre à tous et à toutes ce fameux geste de tri. Et donc, ça va commencer fin d'année, début d'année. Elle va prendre contact avec le plus de communes possible pour que ce soit mis en place Mais la difficulté qu'on a, moi je le vois sur la commune de Recouvre-Jansac, c'est de trouver, entre guillemets, le maître composteur, la personne qui va passer, pas tous les jours, mais au moins une fois par semaine pour vérifier, pour remuer un peu, pour mettre un petit peu de sciure, parce que du bon broyat, du bon compost, il faut le remuer, il faut y mettre un peu de sciure, voilà. Donc il faut qu'on mobilise et qu'on trouve ces fameux maîtres composteurs. Donc on va commencer sur Okubo, hein, et donc on va essayer d'apporter un petit plus, on va mettre, le terme c'est apéro composteur, et on espère que ça va amener un petit peu du monde, voilà.
Et puis après, oui, c'est quand même quelque chose d'assez rigolo. Tout le monde va, sur l'échelle d'un quartier, pourra amener au même endroit. Ça peut devenir même un espace social.
Oui, oui,
voilà.
Oui.
Et réouverture d'un bistrot de quartier, composteur.
Enfin, ouais. On est allé voir sur d'autres territoires il y a quelques années. Là, on est allé voir sur nos voisins, hein, et ça marche. On a vu des belles réussites. Donc, il faut qu'on s'accroche et on doit y arriver. On doit y arriver.
Et puis comme ça, les déchets verts resteront vraiment sur quoi qu'il se passe sur le territoire. Voilà. On a fait le tour, Jean-Pierre, Philippe ?
Peut-être rappeler les fondamentaux. Ouverture de la nouvelle aire de tri et de réemploi de Luc, mardi 15 octobre, 14h. Du coup, dès la semaine prochaine, le lundi 13 octobre, Minglon réouvre aussi avec ses horaires habituels. C'est-à-dire que Minglon sera désormais fermé les mardis et les jeudis après-midi. Ainsi les samedis après-midi. Et donc Luc reprend ses horaires mardi après-midi, jeudi après-midi, samedi après-midi. Donc ça, c'est important pour les usagers, de ne pas se tromper, sinon vous allez trouver portail clos à Minglon. La Motte Chalancon, les travaux sont en cours. Il y a une déchetterie temporaire avec un peu moins de services qui est au centre technique départemental, qui fonctionne aux mêmes horaires que d'habitude. Donc là, pour le coup, c'est le mercredi et le samedi. Eddy, le chantier est à l'étude et si tout va bien, devrait commencer d'ici une année.
Une bonne année.
Et on peut retrouver tout ça sur le site internet de la Comcom.
Bientôt rénové.
Bientôt rénové.
Lui aussi.
Oui, lui aussi.
Voilà. Merci à vous. À la prochaine.
À la prochaine. Merci beaucoup.
Interview.
Okay. Bye.
L'interview du jour.